présenté par Christelle Le Polotech
et préparé par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean-Jacques Zilberman pour son film « À la vie », réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, avec Julie Depardieu et Hippolyte Girardot, sur les écrans le 26 novembre prochain. Vous êtes le réalisateur de nombreux films, comme tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. L'homme est une femme comme les autres, et plus récemment, la folle histoire amour de Simon Eskenazi. Mais vous avez choisi cette fois d'affronter un sujet plus grave et aussi très personnel, puisqu'il s'agit de l'histoire de votre mère après Auschwitz. Plus précisément, il s'agit de l'histoire de votre mère et de ses deux amies, Paulette et Annie, rescapées également d'Auschwitz, qui se sont reconstruites chacune de leur côté et qui se sont retrouvées chaque année, chaque été, au bord de la mer. Vous les avez, dans les années 80, accompagnées dans ce voyage estival. Vous les avez filmés également, ce qui a donné lieu à un documentaire intitulé « Irène et ses sœurs ». Ce témoignage existe. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la fiction pour aborder à nouveau ce sujet et le transmettre à, peut-être à un plus large public ?
Au départ, elles étaient des survivantes, mais elles n'étaient pas éternelles. Et à un moment donné, elles ont eu 75 ans et elles partaient tous les étés ensemble. Et alors, tout le monde disait, il faut aller les filmer, il faut garder un témoignage. Et puis je l'ai fait, ce qui n'était pas simple, parce que Annie, Lily dans le film, elle a un fils qui est caméraman, donc elle voulait que ce soit lui qui fasse le film. Donc il y avait une jalousie de mère aussi entre elles. Et puis finalement, Rose, Paulette dans la vie, a dit, mais moi, je n'ai jamais fait mon témoignage, c'est l'occasion de le faire, mon témoignage de déporté. Donc c'est comme ça que j'ai pu les filmer, et dans cette idée, je me suis dit, comment je vais les filmer? Peut-être dans une chambre d'hôtel, non, comme ça se fait habituellement, mais j'ai dit non, mais j'ai envie de vous filmer en maillot de bain sur la plage. Alors elles ont accepté, peut-être c'est là qu'est venue l'idée de mise en scène plus tard du film, c'est-à-dire de cette transposition-là, pour le raconter. Et bon, j'ai filmé une journée, hein, j'ai filmé 4 heures, on a rajouté des documents après dessus, mais j'étais content du film, mais j'étais surtout conscient que ça traduisait que très peu de choses par rapport à tout ce que j'avais envie de raconter. Puis j'avais envie de raconter mon témoignage aussi sur ces trois femmes, puisque je les ai connues toute ma vie. Et au moment du décès de maman, j'ai commencé l'écriture du film.
Dans quelle mesure vous souhaitiez rester fidèle au documentaire, au témoignage justement?
Alors ça,
de ces trois femmes,
tout ce qui touche au témoignage dans le film sur la déportation, voilà, c'est tiré un peu des vrais témoignages. Là, je ne pouvais pas avoir une imagination. D'une certaine façon, il y avait un respect aussi de chaque témoignage. Après, il y a des témoignages qui se mélangent de plusieurs déportés à l'intérieur même du film. Après, c'est ma part d'imagination. Mais tout ce qui touche à la déportation, ce sont des témoignages vrais. Voilà,
Sur la déportation, d'ailleurs, on rappelle, le film se déroule principalement dans l'atmosphère douce
des années 60,
et sucrée, voilà, ouais, de la France, ouais, des années 60. Mais vous avez choisi d'ouvrir le film sur l'évacuation du camp le 17 janvier 1945.
Parce qu'elles se sont connues là, et j'ai essayé d'écrire le film sans cette évocation, parce que ce n'était pas facile de reconstituer Auschwitz. Et en même temps, l'histoire marchait moins bien parce qu'elles se retrouvent 15 ans après. Alors, c'est des amis, mais si on ne les a pas vues en situation d'être déportées, on ne comprend pas bien. Surtout, je pense qu'il faut beaucoup d'imagination pour les nouvelles générations pour arriver à imaginer que ces femmes-là qu'on voit en 1960 sur la plage, elles étaient à Auschwitz ensemble. C'est très abstrait, donc il fallait que je le montre. Après, il y avait deux images qui étaient importantes pour moi. C'était l'image du Révire et l'évacuation du camp, c'est-à-dire la marche de la mort, le début. Et il n'y avait pas d'image, les Allemands n'ont pas filmé ça. Alors il y a ce documentaire russe où on voit des femmes à l'intérieur d'un bloc à Auschwitz, mais c'est des femmes polonaises qu'on a amenées, elles sont très en chair. C'est pas des déportées, donc il fallait reconstituer à partir des témoignages et avec les effets du numérique, les possibilités du décor, plus des figurantes qui étaient vraiment très émouvantes parce que c'était des femmes qui étaient à Berck, puisqu'on a tourné ça à Berck, qui étaient en chimiothérapie. Qui étaient très maigres et qui ont pris le tournage du film comme une thérapie véritablement. Et psychologique, donc elles ont pu enlever leur perruque, elles étaient très maigres, elles n'avaient pas honte. Le seul problème, c'était de leur dire, on ne va pas faire des selfies avec des femmes habillées en costume de déporté, parce qu'elles étaient... c'était un peu ça le problème, c'est qu'elles voyaient ça comme un film aussi. Donc, la reconstitution du Révire et à partir des témoignages, on s'est rendu compte que ça devait absolument être comme ça. avec les personnes à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, bah, la marche de la mort, probablement elle n'est pas comme elle est dans le film, parce que c'est une image très symbolique. J'ai pris la porte de la mort d'Auschwitz et on voit, il y avait, faut imaginer, il y avait 60 000 personnes à Auschwitz au moment de l'évacuation. 55 000 sont partis sur les routes, 5 000 ont été tués ou sont restés au camp. Donc c'est une ville entière qui ont déménagé, mais les hommes et les femmes étaient séparés. Donc en fait, j'imagine que l'endroit où j'ai filmé les femmes, c'était les hommes qui sont sortis par là, parce que c'était Auschwitz 1, alors que les femmes venaient, elles étaient beaucoup plus loin, elles ont dû partir probablement, on a dû ouvrir des grillages. Il faut imaginer, on est au mois de janvier 45, il fait moins 20 degrés. En Pologne, et on les jette, elles pèsent entre 35 et 40 kilos. Donc je pensais quand même que c'était important, vu que les Allemands n'ont jamais voulu faire cette image, puisqu'elles étaient en pleine déroute, en pleine débâcle, de quand même montrer à quoi ça pouvait ressembler cette longue marche, enfin cette marche de la mort. Mmh.
Ça, c'est des choses dont votre mère vous a parlé précisément, ces moments-là?
C'est-à-dire que ma mère m'a parlé de toute la déportation toute sa vie. C'est-à-dire elle était militante, elle parlait beaucoup, elle militait à la FNDRP. À l'époque, c'était la Fédération Nationale des Anciens Déportés, Patriotes Internés Résistants. Donc, elle vendait des magazines, elle était une militante, donc elle pensait qu'il fallait dénoncer constamment la barbarie, le racisme. Elle était très engagée sur tout ça. Mon père, qui était déporté aussi, n'en parlait jamais, parce qu'il faisait des cauchemars et il était très traumatisé. Donc, toutes ces choses que j'ai mises dans le film, c'est toutes mes impressions depuis ma plus jeune enfance. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai compris que mes parents étaient déportés. Et j'ai grandi avec ça.
On va revenir juste à un moment du film qui est particulièrement fort, alors qui est fictionnel manifestement, on va y revenir, mais c'est ce moment où Hélène, donc votre mère
entre guillemets, parce que c'est, oui.
Voilà, revient chez elle après la déportation dans l'appartement où on voit que rien n'a bougé depuis son départ. Il y a les reliefs d'un repas sur la table, des assiettes qui n'ont pas été débarrassées et qui indiquent que la vie de cette famille s'est arrêtée brutalement, alors que toutes les traces de leur vie sont là, intactes. Hélène est la seule manifestement à être revenue. Et il y a en quelques secondes un portrait vertigineux du vide que les rescapés ont pu trouver à leur retour.
Ça, c'est pas l'exemple que mon père a vécu. Par exemple, mon père, lui, il est rentré, il a retrouvé son appartement. Mais,
il a retrouvé son appartement.
Oui, qui avait été habité par d'autres gens. Mais le propriétaire lui avait fait un procès parce qu'il n'avait pas payé son loyer pendant un an et demi. Alors qu'il avait été arrêté par la police française, il était pupille de la nation et il avait été à Drancy avec sa famille, tout le monde a été gazé en arrivant au camp. Mais on lui a fait un procès parce qu'il n'a pas payé le loyer. Mais c'est arrivé que les appartements soient pillés, il y avait beaucoup de spoliation. La police française venait repérer, la Gestapo venait repérer les biens. Mais là, c'était des petits appartements d'HLM, donc il n'y avait rien à voler presque, à part des godasses ou des robes. Donc oui, puis il arrivait aussi que les voisins, ou là la concierge dans mon film, elle protégeait les appartements des biens des juifs parce qu'elle était, elle était engagée, proche du Parti communiste par exemple. Donc, donc Hélène rentre dans l'appartement, évidemment, c'est comme au jour où ils ont été arrêtés, rien n'a bougé, et il faut reprendre la vie, il faut trouver. Moi je sais pas, j'aurais pensé que jamais j'aurais eu la force de reprendre la vie à partir de là, mais ces femmes ou ces hommes bon, qui ont vécu ça, ils ont survécu à Auschwitz, ils avaient la force de repartir, de refaire une vie, de refaire une famille. Et ce qu'on raconte très peu, c'est comment après les déportés se sont retrouvés après la guerre et comment ils ont réappris à vivre. C'est un peu ça le sujet du film pour moi. C'est-à-dire comment retrouver les choses les plus simples, les plus élémentaires. La retrouvaille de ces trois amis, en vérité, elles ont eu lieu 25 ans après, il faut imaginer. Dans le film, elles ont eu lieu 15 ans après. Mais elles ne se sont pas vues pendant 25 ans. Elles se sont perdues pendant l'évacuation du camp. Et après, elles ne se sont plus quittées.
Dans le film, justement, le personnage inspiré donc, de votre mère, joué par Gilles Depardieu, elle retrouve ses amis grâce au journal yiddish,
la Nahe Press.
L'Alliance communiste. Ça s'est passé comme ça pour de
bon? Oui, ça s'est passé vraiment comme ça. Parce qu'en fait, je pense que Rose avait retrouvé Lily. Donc la Canadienne avait retrouvé la Hollandaise, ils s'étaient tous mariés, ils avaient changé de nom, ils avaient déménagé, donc il n'y avait pas Facebook à l'époque, c'était très difficile de se retrouver. Et en fait, ils ont mis, par une petite annonce, un jour chez le médecin, chez le dentiste, je crois, à Montréal, quelqu'un lui a dit, mais il y a quelqu'un qui recherche ton ami qui est pas ton amie hollandaise. Ah, Elle avait dessous le numéro de téléphone de maman. Et comme elle avait gardé des liens, elle avait retrouvé déjà Lily. Ils se sont toutes les trois retrouvées tous les ans. Elles partaient sans leur mari, sans leurs enfants, ensemble, parce qu'elles avaient beaucoup de choses à partager.
Justement, ces femmes qu'on voit, qui sont en pleine reconstruction, chacune dans un chemin très différent, mais elles font face à un passé traumatique, et vous montrez de manière très, très fine, très intimiste, tour à tour, la joie de vie incroyable et le poids extraordinaire qu'elles portent. C'est des choses que vous aviez perçues, vous, étant enfant ?
Plus j'ai mûri, plus je me suis rendu compte, parce qu'à 10 ans, j'ai surtout vu les photos qui m'avaient choqué, les photos de déportés en noir et blanc, avec les corps décharnés. Et ça m'avait vraiment traumatisé.
D'associer ces images-là
à mes parents, oui, c'était très difficile. C'était des images très pornographiques, il faut imaginer quand même. Que la première fois que j'ai vu des corps nus d'hommes ou de femmes, ils étaient nus et squelettes. C'est les premières images que j'ai vues de la nudité. Et j'étais très marqué par ça. Et un jour, j'en ai fait le reproche à ma mère, d'ailleurs, bien des années après. Elle m'a dit, tu sais, c'est quand même pas la même chose de voir les photos et de vivre les choses.
Vous aviez quel âge quand elle vous les a montrées, ces photos ?
Ah bah, elles étaient sur la table de la cuisine, puisqu'elles vendaient. Donc oui, j'avais 10 ans.
Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film. Votre mère disait donc, vous le disiez, quand elle allait rejoindre ses amis, qu'elle allait à Auschwitz-les-Bains, ce qui a d'ailleurs été un des titres envisagés pour le film. Cette joie de vivre qu'on perçoit, vous vous dites que c'est grâce à cela qu'elle a survécu ?
Pour ce qui est de ma maman, oui. Je pense vraiment qu'elle avait une force de vie absolument extraordinaire et un sens du partage, de la solidarité qui faisait au camp les gens qui étaient seuls ou mélancoliques, voilà, qui étaient seuls et mélancoliques, ils avaient du mal à vivre. Là, elles se donnaient un petit coup d'épaule tous les matins. Elles se donnaient la force de passer cette journée au camp. Une journée au camp, il faut imaginer que c'est à peu près une semaine pour nous, dans des conditions où on risque sa vie à chaque seconde. Et donc le soutien qu'elles avaient les unes vis-à-vis des autres, cette entraide, disons, les a sauvées. Alors elles sont venues, il y a l'humour, mais il y a les silences aussi, il y a les choses indicibles, il y a les chants yiddish, il y a tout ce qui fait la vie. J'ai pas insisté particulièrement sur l'humour, mais l'humour est là parce qu'il fait partie aussi de la vie.
Et oui, et puis on voit cette énergie qui émane de ces femmes aussi, qui est...
Mais chacune ont des réactions très différentes à leur déportation, parce que ces trois femmes sont très différentes, c'est ça qu'il faut comprendre. Lily est une intellectuelle, elle est écrivain,
c'est la hollandaise.
La canadienne, elle est une commerçante, et puis Hélène, c'est une militante couturière, elle est couturière dans la vie, mais elle est militante communiste. Donc ces trois femmes probablement dans la vie ne se seraient jamais rencontrées, c'est Auschwitz qu'ils se sont rencontrées, mais ce qui les unissait était plus fort que tout ce qui pouvait les désunir. Elles se disputaient souvent, elles n'étaient pas d'accord sur la mémoire, elles disaient souvent « mais ça c'est pas du tout passé comme ça ». Elles surenchérissaient en fait l'une sur l'autre pour avoir raison sur le témoignage, mais sur le fond, elles disaient la même chose sur leur témoignage, c'est-à-dire qu'elles avaient vécu la même expérience au camp, elles sont restées... 6 mois pour ce qui est de ma mère. T'arrives au mois de mai, t'es évacué en janvier. Mais après, il y a eu la marche de la mort. Mais Lily était déjà là depuis 6 mois avant elle. Et comme elle était hollandaise, elle parlait allemand. Et c'est comme ça qu'elle a pu se faire embaucher aux cuisines. Mm-hmm. Et quand elle a vu arriver Rose et Hélène, et Rose avec le drame qui lui arrivait au moment de la descente du train, elle les a pris en charge tout de suite. Elle s'en est occupée. Il y a eu une vraie solidarité. D'ailleurs, j'ai lu dans beaucoup de livres en travaillant sur le film que les Hollandais, les Juifs hollandais, avaient un sens très fort de l'organisation et de la solidarité au camp. Plusieurs fois, j'ai lu ce témoignage.
Il y a une autre figure qu'on n'a pas du tout parlé encore dans votre film, c'est évidemment la figure du père, qui est beaucoup plus introvertie, beaucoup plus douloureuse presque.
Lui, il est traumatisé totalement, il ne peut plus parler, il peut raconter que des blagues juives. C'est sa façon de parler parce qu'il ne peut plus parler, il a vécu un traumatisme trop fort. Il a été déporté avec sa mère, ses deux sœurs, sa femme et sa petite-fille, qui ont tous été gazés en arrivant au camp. Il fallait recommencer une vie après la guerre. Et il est resté en plus assez longtemps à Drancy avant de partir à Auschwitz. Bref, il est rentré. C'était un homme qui croyait plus à rien, qui était brisé. Mais il a refait une famille quand même. Il a recommencé. Il a rencontré ma mère à ce moment-là dans les associations d'anciens déportés. Parce que faut imaginer dans quel silence se sont retrouvés les déportés quand ils sont entrés. Ils sont arrivés à Paris au mois de mai, juin 45. Paris était libéré déjà depuis le mois d'août 44. Personne ne voulait entendre leurs témoignages. Donc souvent, ils se sont mariés entre anciens déportés. C'était le cas de Rose et de maman.
Vous abordez, et personne ne l'avait fait avant vous, par la fiction, les questions les plus graves qu'ont partagées les anciens déportés, ce que Annelise Stern appelle le savoir déporté. Par exemple, le fait qu'on doive sa vie à l'abandon de son propre enfant, ou encore la question de la stérilisation forcée qu'ont dû subir de nombreux déportés. Est-ce que vous pensez que seul un enfant de déporté pouvait traiter de manière si juste ces questions-là et peut-être qu'on arrive aussi à une nouvelle phase dans la transmission de la mémoire auprès du grand public.
Je pense que c'est ça que le film traduit. On n'a jamais raconté la déportation comme dans le film. C'est-à-dire comment survivre après la déportation et avec les traumatismes de la déportation. Moi, je pense que la génération des gens qui l'ont vécu aujourd'hui, malheureusement, est en train de disparaître. Qu'il appartient maintenant aux générations suivantes de témoigner. Moi, je témoigne du témoignage dont je suis témoin en tant qu'enfant de déporté. J'ai vu mes parents grandir. J'ai grandi avec mes parents qui étaient tous les deux déportés à Auschwitz. Donc, j'ai beaucoup de choses à raconter dans ma propre résilience. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Mais je pense que la génération d'après aussi, j'ai un ami qui a écrit un livre sur la déportation de son grand-père. Ça passera par la bande dessinée, ça passera par le cinéma, ça passera par le chant, ça passera par la musique, ça passera par la peinture. Les enfants de ces trois femmes, on travaille tous artistiquement sur le fait de comment raconter la mémoire de nos mères. Et son écrivain, la fille de Lily est écrivain, Raya, et Hans est cinéaste, et Claudine, la fille de Rose, écrit des livres. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas un devoir de mémoire, c'est pas ça. C'est probablement qu'on est resté tellement lié à ces femmes qu'on n'a pas envie de les quitter, et on a envie de continuer à raconter le savoir qu'on a d'elles et de ce qu'elles nous ont appris. Et c'est important que la mémoire ne s'arrête pas au moment où la disparition des témoins, les premiers témoins, ceux qui l'ont vécu, vont disparaître. Je pense que c'est très important. Il faut désacraliser aussi beaucoup de choses pour pouvoir en parler. Il ne faut pas être dans une orthodoxie. Il faut être beaucoup plus ouvert que ça. Il faut laisser les formes d'expression s'exprimer librement, dans le respect évidemment de la déportation et des déportés. Et je pense que toute tentative de sacralisation extrême va faire taire, va créer un silence. Et ce silence, on n'en a pas besoin. Il y a eu un silence pendant si longtemps sur ce qu'a été l'extermination des Juifs d'Europe que ça me paraît important aujourd'hui de continuer à témoigner de ce crime contre l'humanité.
Vous nous disiez que vous avez grandi avec les images de la déportation. Le témoignage de votre mère, de votre père, peut-être un peu moins, mais à quel moment vous avez été de vous-même vers ce sujet ? C'est-à-dire à quel moment c'est devenu un sujet pour vous, en dehors de vos parents ? Je ne sais pas si ma question est claire.
C'est un peu vrai depuis toujours, mais quand j'ai fait « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes », ça commençait, Josiane Balasco vendait le muguet au profit des anciens déportés. Et moi, j'étais un petit garçon dans le film qui vendait le muguet avec sa maman, parce que je vendais le muguet au profit des anciens déportés quand j'avais 10 ans déjà. Donc, c'était Place Doménil, c'était pour créer une maison de retraite pour les déportés, je me souviens. Donc, quand j'ai fait les parents communistes, j'aurais voulu avoir la maturité pour pouvoir raconter l'histoire de ces trois femmes, mais j'étais trop jeune, j'avais pas... Puis peut-être elles étaient vivantes, et tant qu'elles étaient vivantes, je pensais que c'était à elles de témoigner,
de parler,
je me sentais pas le droit de parler sur elles. Et c'est vraiment quand elles sont parties, toutes les trois, qu'il y a eu un besoin énorme de raconter ce qui était pour moi une histoire très exemplaire depuis toujours, l'amitié de ces trois femmes.
Et au-delà de cette amitié, vous avez pu parler de la déportation avec elle. C'est-à-dire, c'était pas non plus un sujet tabou
avec votre mère, manifestement.
Mais avec elle.
Alors, Paulette Rose avait beaucoup de mal à en parler, mais avec moi, elle en parlait parce que on était, vous savez, c'était les transferts d'enfants, parce qu'on est restés très liés, les enfants des trois femmes. Donc, on se voit et on communique ensemble. Elles sont toujours à Amsterdam, à Montréal, ça n'a pas changé. Les mères, par exemple, moi, Paulette Rose était avec moi dans un rapport extrêmement empathique, gentil, encourageante par rapport à mon travail de cinéma. Ma mère était très empathique avec les enfants de Rose. C'est-à-dire que c'était pas directement nos mères qui nous soutenaient, mais c'était la copine de nos mères. Donc oui, avec Rose, avec Lily, j'en ai moins parlé parce qu'il y avait une différence d'âge aussi. Et avec ma mère, j'en ai énormément parlé. On a beaucoup parlé. Maman allait dans les écoles, elle témoignait avec les enfants des écoles. Moi, je lui reprochais un petit peu. Je lui disais, repose-toi un peu, là, t'es un peu fatigué. Et maintenant, je réalise avec le recul du temps que c'était irremplaçable de faire ce qu'elle a fait jusqu'au bout.
Jusqu'au bout,
elle allait dans les écoles, parler avec les étudiants, les enfants.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Jean-Jacques Zilberman. Je rappelle que votre film, À la vie, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera sur les écrans le 26 novembre prochain. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.